La transparence est un des éléments clés dans la confiance, dans les médias sociaux et l'influence marketing. Lors de la dernière conférence Reach, en ce début d'année 2023, j'ai rencontré Alain Hazan de chez Taoma Partners. Alain est un avocat spécialisé dans l'influence marketing. Je l'ai interviewé sur le sujet de la transparence dans les médias sociaux, un sujet crucial. À l'heure où certains influenceurs sont montrés du doigt, l'étau se resserre. C'est pour autant un sujet moins abouti que ce que l'on pourrait croire. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing, le sujet du jour, transparence et confiance dans les médias sociaux, avec Alain Hazan de Taoma Partners. Alors je suis avec Alain Hazan. Bonjour Alain, vous êtes partenaire chez Taoma Partners. J'ai ouï dire que vous étiez spécialisé dans l'influence sur Internet.
Bonjour Yann, effectivement je suis avocat et je suis associé de ce cabinet Taoma Partners qui a une particularité d'abord avant de parler d'influence marketing. C'est un des premiers cabinets à avoir réuni deux professions différentes, les avocats d'un côté et des conseils en propriété industrielle. Donc on travaille autour de la création en général. Et puis il se trouve qu'on a une branche qui a poussé assez vite dans notre cabinet et qui nous a permis de faire ce qu'on a appelé une verticale, qu'on a appelé Taoma Influence. Pourquoi on a créé cette verticale, c'est que on a voulu réfléchir à cet assez récent et jeune phénomène de communication, donc l'influence marketing. D'abord parce que moi j'enseigne depuis longtemps le droit de la publicité, que je pratique depuis plus d'une trentaine d'années, et puis ça nous a, avec l'une de mes associées Gaëlle Loinger, beaucoup intéressé, et on s'est dit que comme dans la logique de s'associer entre deux professions différentes, il fallait peut-être aussi faire appel à d'autres professionnels dans ce secteur pour compléter un peu nos connaissances. Donc on a fait appel à une fiscaliste, Stéphanie Maury, à une expert comptable. On a aussi rajouté dans notre équipe une expert en droit du travail. On va adjoindre bientôt une société de communication de crise, une agence spécialisée en communication de crise, parce que c'est vrai que l'influence marketing, ça peut être aussi la source de crise. Mmh. Voilà, donc on voudrait, et c'est ce qu'on fait depuis presque 2 ans maintenant, réfléchir à toutes les questions autour de l'influence marketing. Et on a d'ailleurs sous-titré notre verticale « La fabrique du droit des acteurs de l'influence marketing ». Et c'est exactement ce qu'on y fait. On réfléchit aux nouvelles problématiques qui se posent. Il y en a beaucoup. Comme vous le savez, il y a des textes de loi en préparation sur le sujet. Il y a un peu de jurisprudence et puis il y a surtout parmi nos clients et parmi les marques et parmi les acteurs, beaucoup de questions qui se posent sur comment on paye un influenceur, comment on contracte avec un influenceur, qui est responsable des prises de parole d'un influenceur, etc., etc. Les sujets sont très nombreux et variés.
Alors, ça tombe bien, parce que justement, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps lors d'une conférence organisée par Reach sur l'influence, qui présentait son baromètre annuel. Et quelque chose qui nous a fait tiquer un petit peu tous les deux, c'était justement cette notion de transparence, où on avait l'impression que tout était réglé et que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes de Pangloss. Et finalement, pas tant que ça, et qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Alors j'ai compris aussi, d'après notre discussion, alors moi je regarde pas la télé, je vous fais confiance, qu'il y a eu une émission de télé qui a déclenché une réflexion sur ce sujet.
Oui, alors, il y a eu cette fameuse émission il y a quelques mois sur France Télévisions, un complément d'enquête sur une partie, il faut dire, une partie assez bruyante des influenceurs, qui représente quelques petites, je sais pas, 200 ou 300 influenceurs du monde de la télé-réalité, qui, dont une bonne partie aussi a des pratiques un peu borderline et parfois même illicites, donc qui peuvent revêtir les qualifications d'escroquerie, de contrefaçon, etc. Ça a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, les propositions de loi dont je vous parlais tout à l'heure sont issus de ça. Mais sur la question de la transparence, c'est pas vraiment cette émission qui a réveillé un peu les esprits et qui a fait prendre conscience aux gens qu'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément dans le domaine de l'influence marketing. C'est une prise de conscience qui a eu lieu beaucoup plus tôt, je crois, dans les années 2009-2010. C'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Répression et des Fraudes, la DGCCRF, qui s'est aperçue déjà que des YouTubeurs faisaient... on va dire la promotion, en tout cas, vantait les mérites de jeux vidéo en citant des marques et en taisant le fait qu'il y avait un lien entre eux-mêmes et ces marques. Donc en fait, c'était de la, ni plus ni moins de la publicité déguisée. Et la publicité déguisée, c'est quelque chose que le droit français a un peu en horreur, en tout cas la tradition française. C'est normal parce qu'on a l'impression que on trompe, enfin c'est même pas une impression, c'est que quand on fait de la publicité clandestine ou déguisée, on trompe le consommateur. On est dans un comportement qui est le contraire de ce que doit être une publicité, à savoir quelque chose de loyal. Et donc quand on ne dit pas à une personne que ce qu'on est en train de dire n'est pas forcément objectif parce que c'est le fruit d'une rémunération, qu'elle soit en monnaie ou en nature, eh bien, quelque chose de déloyal. C'est quelque chose qui existe dans le droit de la publicité depuis assez longtemps. Hein. Si vous regardez un magazine papier, on le fait tous encore, Dieu merci, ouais. Vous voyez de temps en temps cette mention publicité, publi-reportage. Hein, vous voyez, ça vient d'une loi de 1986, qui a fait cette obligation aux éditeurs de bien distinguer ce qui relève du contenu éditorial et ce qui relève de la publicité. Et souvent, la tentation est grande de donner la même police à des textes un peu publicitaires pour faire croire à celui qui tourne les pages qu'il est toujours dans quelque chose d'objectif et qu'en réalité, il est dans une publicité. Donc, on a... dès 86, mais déjà peut-être même avant, imposer ça à la presse écrite. Ensuite, on a les mêmes dispositions sur la radio, bien sûr, la télévision. Le décret de 92 sur la télévision, 1992, prévoit bien que la publicité clandestine doit être bannie, donc de toutes les émissions. Quand on regarde la télévision, et on la regarde encore, les émissions, les présentateurs font toujours attention de ne pas citer des marques, hein, parce que en disant attention, le CSA, qui s'appelle plus le CSA, mais l'ARCOM, va nous taper sur les doigts, on n'a pas le droit de citer des marques, parce que la publicité doit être circonscrite aux endroits où elle doit être, c'est-à-dire les plages publicitaires. Et je pourrais continuer comme ça sur tous les supports. Et quand Internet est arrivé, eh bien, c'était en 2004 que le législateur s'est emparé du sujet et dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique a déjà prévu que a rappelé ce principe et l'a rappelé à l'occasion d'Internet en disant sur Internet, bah, quand on fait de la publicité, on doit dire que c'est de la publicité et on doit dire pour le compte de qui elle est faite. Et puis ensuite, on a eu des textes qui sont venus, des textes sur les pratiques commerciales trompeuses, sur la publicité mensongère, qui sont venus prévoir pas mal de sanctions, enfin des sanctions existaient déjà, mais qui sont venus dire que le fait de ne pas de cacher la nature publicitaire d'un message ou de cacher au nom de qui un message est fait, ben, ça s'apparentait à de la publicité mensongère et que c'était donc répréhensible.
D'accord. Donc tout ça, en fait, on connaît bien sur Visionary Marketing depuis longtemps les obligations de transparence. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est dédié à la France. Hein, c'est quelque chose qui est mondial. Et aussi, c'est une règle autant une règle d'éthique d'ailleurs qu'une règle juridique. Mais ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est qu'il y a un véritable texte de loi. Où est-ce qu'on le trouve ce texte
de loi ? Alors, il est dans le Code de la consommation. C'est l'article de mémoire les articles L121.1 et suivants du Code de la consommation. Donc c'est un texte assez ancien, hein, il trouve ses racines en 1972. C'est tout ce qui, de façon beaucoup plus large, qui empêche n'importe quel acteur économique de dire n'importe quoi, de mentir sur un produit, sur ses qualités, de nous vendre des médailles miraculeuses, etc. Et ce texte a été réformé plusieurs fois, et dans ces derniers états, il prévoit même des listes dans lesquelles il y a certains comportements qui sont très exactement ceux qui nous intéressent, à savoir, si je le reprends, je vais l'avoir pas très loin, à savoir le fait de par exemple, d'utiliser un contenu rédactionnel dans des médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même sans indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur. Donc, c'est déjà prévu par les textes, c'est tout à fait applicable sans aucun problème. Je pense qu'il faut aussi rajouter à ça qu'il y a tout le travail des organisations professionnelles, en tête desquelles l'ARP, qui fait depuis longtemps un travail complémentaire de recommandations, parce que c'est tout l'intérêt de l'ARP et de ses membres, d'offrir au public une publicité loyale et claire sur la question, et qui a fait spécifiquement sur la question qui s'intéresse de l'influence marketing aussi, une recommandation très utile sur quand on fait de l'influence marketing, il faut qu'on l'identifie par une annonce en début de message, il ne faut pas que ce soit noyé dans le texte, etc. Il y a toute une réglementation que je vous invite à aller voir. Donc ça, il y a des textes, il y a des sanctions qui sont prévues, tout est clair. Après, il faut aussi comprendre que si on en est là, c'est que je pense que ce qui a beaucoup attiré les marques et les publicitaires dans cette nouvelle forme de publicité qui était l'influence marketing, c'est ce côté brouillage un peu des pistes, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire admettre à un public un message publicitaire lorsque ce public ne sait pas qu'il est en train de recevoir un message publicitaire. On arrive à une époque où il y a une saturation de l'audience sur la vraie publicité, et on recherche souvent à ce que le public soit beaucoup plus réceptif, et donc c'est vrai qu'il y a cette tentation de certains de faire passer de la publicité pour un message informatif. Donc quand on dit à un influenceur, j'aimerais bien que vous parliez de ma marque, mais dites pas trop que je vous ai payé pour ça, il y a quelque chose qui est un petit peu sur une crête, un petit peu dangereuse, et c'est ça qu'on cherche à combattre.
Alors, on comprend bien, c'est encadré, il y a des règles d'éthique, il y a des recommandations qui sont faites par la RPP, donc tout va bien, mais finalement non, tout va pas bien. Il y a des gens, aussi bien d'ailleurs des marques que des influenceurs eux-mêmes, qui mettent le pied en touche. Alors c'est quoi l'état des lieux que vous faites sur ce sujet? Et finalement, est-ce qu'il y a des voleurs qui arrivent à s'échapper avec le butin, ou est-ce qu'ils vont être attrapés par la police?
Alors, d'abord, il faudrait que la police ait des moyens, parce que si c'est la police, c'est la DGCCRF, donc c'est un organisme qui dépend du ministère de l'économie. Il faudrait que cette DGCCRF puisse surveiller un peu ce qui se passe sur les réseaux et pouvoir le dire. Après, l'ARP fait aussi... en quelque sorte la police par rapport à ses membres, et donc ses membres qui sont en général des marques ou des agences de publicité vont près de l'engagement de respecter ces règles-là, et en principe ne le font pas. Donc elles n'ont pas des comportements illicites ou en contradiction avec ça. Et si elles le font, elles risquent des sanctions, puisque l'ARP, comme toutes ces organisations professionnelles, met en place une autodiscipline avec tout un système de sanctions. Et puis après, on pourrait se dire que naturellement, c'est le public qui va se sentir floué. C'est-à-dire que quand un influenceur crée sa communauté, qu'il la fédère autour de lui, ça se fait dans un climat de confiance. Je sais pas, Yann, si vous suivez beaucoup d'influenceurs sur les réseaux, mais ceux que vous suivez, vous avez tendance à les suivre parce que vous avez confiance dans ce qu'ils vous racontent. Si au bout d'un moment, vous vous apercevez que cette personne met en avant des produits, des services, sans vous dire que derrière, il a reçu une rémunération, au bout d'un moment, vous vous sentez vous-même un petit peu floué. Donc c'est peut-être ce cercle, cet effet vertueux qu'on attend, et cette confiance réciproque qui permettrait que les marques ne s'éternisent pas utilisant de l'influence marketing non déclarée, non transparent, que les influenceurs ne ternissent pas leur réputation auprès de leur communauté en faisant le même type de comportement. Le truc qui nous a fait un peu tiquer quand nous étions ensemble à cette conférence Reach, c'est que l'étude Reach avait dévoilé qu'une grosse partie du public imaginait que les influenceurs étaient payés par les réseaux sociaux et non pas par les marques. Et donc là, on se dit, ah, il y a peut-être un peu de travail, ou il y a peut-être un peu de maturité à attendre encore du public. Si on attend que vraiment le public fasse en quelque sorte une sorte de ménage auto-nettoyant, il y a peut-être un peu de pédagogie à faire et expliquer que non, un influenceur n'est pas payé par un réseau social, il est bien payé par une marque lorsqu'il parle d'une marque, ou alors voilà.
J'ai un petit goût amer en fait quand on parle de ces sujets-là, parce que j'ai l'impression qu'on répète l'évidence que tout le monde connaît depuis le début. Faire de la publicité déguisée, c'est de l'information destinée à tromper le consommateur ou le client si on est en B2B. Hein. Je rappelle que sur Visionary Marketing, toutes nos mentions de transparence sont en tête de nos articles et même souvent d'ailleurs mentionnées avec une couleur particulière. Donc c'est clair, les choses sont claires. Et tout le monde connaît les règles du jeu. Tout le monde a mis une croix dans la boîte. On écoute la RPP, ça y est, c'est fini, on a gagné. Mais non, on n'a rien gagné. Et on n'a pas l'impression que, finalement, je me souviens de cette réunion avec un aréopage de marques du luxe et de la beauté plus riches les unes que les autres, où on leur demandait s'ils faisaient œuvre de transparence dans la salle. Il y avait une blogueuse anglaise qui témoignait sur la transparence. Et dans la salle, nos bons petits Français se regardaient tous ou regardaient leurs chaussures pour pas répondre, parce qu'en fait, soyons clairs, il y en avait aucun qui le faisait. Donc non, il y a rien qui se passe. Enfin, j'ai l'impression, excusez-moi, c'est mon côté breton un peu brutal, mais il y a rien qui se passe.
Alors, je ne suis pas normand, mais je vous opposerai peut-être une réponse en vous disant que on est sans doute dans une voie entre les deux. Je pense que il y a beaucoup de marques qui respectent. Et c'est en ça que ça doit être aussi un peu affligeant de voir que y a des brebis galeuses qui ne le respectent pas. Je ne serais pas capable de vous dire si, en tout cas, le prototype de ceux qui ne suivent pas. Je pense qu'il y a des marques entrantes sur le marché qui ont très envie de s'affranchir du carcan des règles et de jouer aussi à ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire de jouer au fait que on va faire croire qu'un influenceur n'est pas payé et que sa prise de parole est objective. Est-ce que les gros annonceurs prennent ce risque? J'aurais tendance à dire que c'est de plus en plus rare, d'abord parce que très souvent ces gros annonceurs font partie d'organisations professionnelles comme l'ARC, l'Union des marques, qui sont encore une fois des associations qui mettent en place ces recommandations et attendent de leurs membres qu'elles les respectent. Et puis, de plus en plus, on est sur quelque chose où il y a du name and shame, et donc se faire prendre la main dans le sac dans ce genre de comportement, alors qu'on a souscrit en rentrant dans ces associations que on est censé donner l'exemple. Je ne pense pas alors je ne sais pas quand est-ce qu'a eu lieu cette réunion dont vous parliez. Est-ce que c'était il y a longtemps? Il y a quelques années. Ouais. Je crois que depuis maintenant, tout ce secteur, quand je parle de secteur, c'est le secteur de la publicité des grandes marques, hein, ou des marques établies, a bien pris conscience que le côté attractif de cette petite confusion des genres qui intéressait les gens dans les années 2000, finalement, c'était quelque chose qui ne devait pas se pratiquer. Et on s'en tient au fait que l'influence marketing, malgré tout, c'est son intérêt, ce n'est pas de jouer sur la confusion, c'est en revanche de faire passer un message très ciblé via une personne qui a une communauté intégrée, travaillée et fédérée autour d'elle. Et on est donc à même de pouvoir lui diriger un message publicitaire ou une recommandation à la bonne cible. C'est ça qui est le plus important, finalement. Donc je pense qu'on est passé, alors je dis pas qu'il n'y a plus de transparence, parce que en discutant avec Mohamed Mansouri de l'ARP, qui reste toujours très vigilant sur ces questions de transparence, je sais que c'est toujours une préoccupation et que lorsque il fait passer l'examen pour le label influence responsable, il existe encore des influenceurs qui ne respectent pas. Je sais que l'ARP travaille justement avec Reach aussi pour pouvoir vérifier si leurs recommandations sont appliquées, et il y a un pourcentage relativement important de cas dans lesquels ce n'est toujours pas appliqué. Ça veut dire qu'il y a en tout cas des influenceurs qui ne respectent pas.
Important, c'est-à-dire ?
Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Je sais que j'ai retenu les chiffres tout récents de ceux qui passent le certificat. Et une fois qu'ils l'ont passé, le pourcentage de... Mais là, c'est plus général. Ce n'est pas seulement sur la transparence, mais c'est sur le respect de toutes les recommandations. Et le taux de messages qui ne respectent pas et passe de 36 à 9%. Mais après, il faudrait demander à l'ARP et voir quels seraient ces pourcentages concernant spécifiquement la question de la transparence. Mais quoi qu'il en soit, qui dit influenceur qui ne respecte pas, dit marque qui ne respecte pas non plus. Donc je ne vous dis pas que ça n'existe plus, mais je pense que c'est finalement quelque chose qui commence à vraiment s'inscrire et à rentrer dans le système. Moi, en tout cas, j'ai confiance dans le fait que ça va s'autoréguler, parce que les marques ne voudront pas être montrées du doigt et les influenceurs ne voudront pas perdre leur communauté et être discrédités, en fait.
Eh bien, merci Alain. Voilà une note optimiste sur laquelle nous pouvons finir. Nous serons bientôt débarrassés de ce sujet de la transparence. Il faudra passer à autre chose.
Non, on va le souhaiter.
Merci à vous.
Tout à fait.
Bonne journée.
Un grand merci, Yann. À bientôt.
En conclusion, une note optimiste, mais encore du travail. Alain a donc clos cette interview sur une note plutôt optimiste. Notre pratique du terrain, y compris dans le B2B, ne fait pas ressortir une énorme prise de conscience toutefois, et nombreuses sont les fois où il faut expliquer les évidences à la fois à des marques ou à des influenceurs. Notons néanmoins une encourageante prise de conscience qui n'en est cependant pas encore au niveau de ce que nous avons connu aux États-Unis dans le cadre de socialmedia.org et de MediaIsis en France en son époque, il y a désormais près de 15 ans. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.